donc vont éclater ces événements dits Révolution des Trois Glorieuses. Alors le 26 juillet 1830, eh bien, malgré l'interdiction de paraître, les journaux, sauf journaux autorisés, puis je l'ai dit, une suspension de tous, et donc qui ont pour conséquence aussi jeter dans la rue des ouvriers de presse, d'imprimerie, etc., et qui vont renforcer donc les émeutes, qui vont, bon, donc malgré cela, malgré l'interdiction, eh bien plusieurs journaux décident de paraître. Malgré l'interdiction, encore une fois, de la première ordonnance, et ils vont publier le texte d'une protestation collective. Et c'est Thiers, Monsieur Thiers, on le sait, qui sera un homme politique important, qui deviendra le premier président de la première République, après avoir maté la Commune de Paris après 1870-1871. Voilà. Il a un grand avenir, c'est un type très intelligent, c'est un abo physiquement, petit homme, et puis pas très sympathique quand même, mais un fin politique, très intelligent. Bon. Donc c'est lui qui rédige le texte de la protestation qui sera co-signé par les journalistes, nombreux journalistes, et donc c'est un texte très clair et qui condamne l'illégalité des ordonnances. Je n'aurai pas le temps de vous lire, je voulais vous lire le texte des quatre ordonnances ou par extrait, et le texte de cette protestation qui est une condamnation déjà juridique. Ces ordonnances, en substance, suivant Thiers et les hommes de presse, eh bien, ces ordonnances sont illégales. Le roi s'attribue des pouvoirs qui relèvent du pouvoir législatif de la Chambre. Voilà. Donc, c'est la condamnation de ce qu'il considère comme un coup d'État, en fait. Et donc, les journaux appellent à la désobéissance, à résister, entre guillemets, à ce fait du prince, quoi. Et la protestation est publiée dans Le Temps, le journal Le Temps et le journal Le National, voilà. Et puis bien sûr, à l'époque, beaucoup de gens ne savent pas le lire, mais donc ces journaux, il y a la criée, les vendeurs annoncent, et puis c'est affiché, voilà. Et donc, publication le 27 juillet 1830, c'est surtout Paris, c'est dans Paris que ça se passe, comme souvent les révolutions, presque toujours, voilà. Et puis la province suit, mais beaucoup plus tard. Et donc, un incident va mettre le feu aux poudres. Donc, la police veut saisir, investir, donc fait une descente dans les locaux du journal Le Temps. Alors, on appelle un serrurier. Apparemment, il y a des problèmes de serrurier pour en trouver un, etc. Et alors, il y a un attroupement. De la foule est là. Et une émeute éclate. La troupe intervient. Et donc, émeute éclate notamment près du Palais Royal, aussi donc près de la résidence du duc d'Orléans, voilà. Et puis, ça s'aggrave, la troupe tire, voilà. 4 blessés, et le peuple aussi, qui est armé, c'est quand même, on se rend compte que c'est pas une révolution, une révolte tout à fait spontanée, voilà, on le verra. Donc, du côté du peuple, des manifestants, il y a des tirs contre la troupe, donc il y a des morts. Des deux côtés. Et puis alors, la foule procède à des incendies, l'incendie des casernes de gendarmerie, et vers 4 heures de l'après-midi, l'état de siège est déclaré. Et alors, Charles X se trouve à ce moment à l'extérieur de Paris. Voilà. Donc, il désigne le maréchal Marmont comme. Pour commander les troupes. Il désigne le maréchal Marmont. Alors Marmont, c'est un mauvais choix, parce que Marmont est un ancien maréchal de Napoléon, qui avait tourné sa veste, on va dire, et qui avait trahi, on va dire, Napoléon, et sa défection avait été décisive. En 1815, voilà. Marmont a rallié les Bourbons. Donc, il était duc de Raguse. Il est assez impopulaire et lui-même, ne partage pas vraiment l'opinion de. Il pense que le roi aurait dû céder. Donc, du point de vue politique, il n'approuve pas. Mais il agit comme un soldat par devoir, voilà. Et néanmoins, donc là, il, dans la soirée de ces événements, eh bien, il y a un apaisement. Les soldats, sur ordre de Marmont, rentrent dans leur caserne. Mais déjà, chez Casimir Perier, alors Casimir Perier aussi, ça sera un homme politique important, un premier ministre du futur Louis-Philippe. Chez Casimir Perier se réunissent des députés, et notamment les députés qui avaient voté la protestation au roi. Et alors ces bourgeois, je l'ai dit, ces députés, il y a aussi le banquier Lafitte, ce ne sont pas des hommes de désordre. Ils commencent à s'inquiéter, ils veulent sortir de la crise. Et là, Charles X pourrait saisir la main tendue, s'il le voulait. Donc le roi se trouve à l'extérieur de Paris, je l'ai dit, il se trouve à Saint-Cloud. Et là, il va tout au long des événements faire montre d'une espèce de, d'inertie, voire de passivité, d'hésitation, qui seront sa condamnation. Il ressemble en ce sens à son frère aîné, Louis XVI, qui était éternellement hésitant, et dont les hésitations, deux pas en avant, trois pas en arrière, ont provoqué la machine, ont laissé s'emballer la machine révolutionnaire, après, qui a abouti à 1793 à la terreur. Voilà. Et Charles X, qui était indifférent de son frère, hein, Charles X, dans sa jeunesse, à la cour de Versailles, c'était un joyeux drille, on va dire, hein. Et il a été aussi responsable de l'impopularité de Marie-Antoinette, hein, l'épouse de Louis XVI, parce que c'était des jeux, des fêtes, il était léger, quoi, hein. Et dans une période, par exemple, où il y avait de la famine, etc. Donc le peuple assistait à ces fêtes, à cette débauche de luxe, et voilà. Et donc le jeune homme de l'époque, qui avait 20 ans, a été un élément qui a contribué encore une fois à l'impopularité de la reine, et aussi à l'évolution, à l'amplification de la révolution de 1789-93, on va dire, voilà. Et là, c'est un roi âgé, mais il a en même temps cette différence avec son frère aîné Louis XVI, qui était très, on va dire, très sérieux, très digne, mais aussi inerte, hein. Et là, il a le même défaut. Beaucoup d'hésitation. Et puis il réagit très tardivement, il ne prend pas conscience des événements. Et donc à Saint-Cloud, le soir du même jour, de ce 27 juillet, eh bien, il est avec son fils Angoulême, et bon, après la messe, comme toujours, on se met au lit. Donc. Et donc, il faut savoir que pendant la nuit, à Paris, eh bien, tout va s'agiter. Et il y a cette ambiance de complot, c'est pas spontané, encore une fois. J'y reviens. Donc il y a la secte des Carbonari qui est présente. C'est pas du mythe, hein, c'est pas de l'Eugène Sue, c'est historique, hein, les historiens attestent cette analyse. Les francs-maçons aussi, et puis les partisans du duc d'Orléans, qui officiellement est très soumis, voire obséquieux, avec les Bourbons régnants, mais qui, en sous-main, eh ben, il fait sa marche, il vise le trône aussi. Hein. Enfin, c'est peut-être plus complexe que ça, c'est peut-être pas aussi cynique, mais il a peut-être cette arrière-pensée aussi. Et donc, des comités s'activent. Des comités. Alors, d'abord, on va reconstituer la garde nationale, qui est une garde, on va dire, républicaine, vous savez, comme en 1789, et ça sera comme en 1789, ce bon Lafayette, qui va prendre la tête, le vieux Lafayette, de 70 ans, qui va prendre la tête de cette garde nationale reconstituée, voilà. Elle était dissoute, hein, depuis plus de 3 ans. Et puis alors, alors que le pouvoir, le ministère Polignac n'a pas pris des mesures pour assurer les arrières, la logistique des troupes, et puis rassembler les troupes à proximité de Paris, alors qu'elles sont éloignées, je ne sais plus où, dans le nord, à Lunéville et à Saint-Omer. Le gros des troupes est très éloigné de Paris, Saint-Omer, Lunéville, et à Paris, alors qu'il faudrait 17 000 hommes apparemment pour contenir, eh bien, et on en a 8 000, voilà. Et puis, donc, côté opposition, pendant cette nuit, où il y a vraiment un complot, eh bien, ces comités, on va dire, révolutionnaires, se mettent en place la logistique, les vivres, les armes, les munitions, voilà. Et puis, on place on appointe des hommes de main, hein, voilà, pour activer, pour manipuler la foule. et on met même des snipers, des tireurs sur les toits des maisons. Et donc c'est cette technique des batailles de rue qui est bien pratiquée par ces hommes de l'ombre, on va dire. Et aussi, on va édifier pendant la nuit des barricades s'édifient dans tous les points de Paris. On sait, dans tous ces mouvements révolutionnaires, c'était le cas pendant la Fronde, c'est le cas. Il y a des Paris s'érise de barricades. Et côté gouvernement, donc encore une fois, le roi Polignac, ils n'ont rien prévu, ils n'ont rien vu venir. Et Marmont, par exemple, qui est désigné un peu à contre-cœur, qui croyait trouver 17 000 hommes, c'est les effectifs nécessaires. On se rend compte qu'il y a à peu près 8 000 hommes de disponibles. Et puis, encore une fois, les troupes, le gros des troupes, qui devraient être présents près de Paris, ils sont à Saint-Omer, à l'une des villes, on l'a dit, dans l'Est. Voilà. Et Marmont, donc, découvre la faiblesse des moyens. Et par ailleurs, les bataillons de la garde, les bataillons donc de la garde ne sont pas prévus, les régiments royaux ne sont pas adaptés, pour les combats de rue. Ils n'ont pas cette technique des combats de rue. Ils ne sont pas habitués aux traîtrises des combats de rue, à être agressés, à recevoir, être canardés depuis les toits, par exemple. Voilà. Et puis ils ont reçu la consigne. Alors là, c'est étonnant, de ne riposter qu'après 50 coups. C'est presque les livrer pieds et poings liés à une foule. On sait bien que ce qu'est une foule, une populace, une populace sans ce qui n'a pas le sens de l'honneur, là, pour le coup. C'est pas messieurs les Anglais tirés les premiers. On tue par derrière et puis on tire depuis les toits. Donc ils sont envoyés au massacre, purement et simplement. Et donc, je l'ai dit, Marmont lui-même, ex-duc de Raguse sous Napoléon, il n'est pas convaincu. Mais bon, encore une fois, il agit sans conviction. Et puis cette mauvaise réputation d'avoir trahi Napoléon en 1814, il n'est pas populaire. Donc, barricade dans tout Paris. Et puis la foule se précipite à l'hôtel de ville. Et on sait que la foule va prendre l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville, pour toutes les révolutions, c'est le centre stratégique. C'est de là que partent souvent les gouvernements révolutionnaires. Voilà. Et donc, Marmont mène une bataille de rue, mais ça se passe mal. Elle est très meurtrière pour les troupes. Ils se font massacrer. Et le roi, lui, est toujours à Saint-Cloud. Il y reste, quoi. Alors que peut-être il pourrait venir sur place, sur un cheval. Il reste à Saint-Cloud. Voilà. Et par contre, les ministres vont s'installer aux Tuileries. Ça deviendra le palais donc souverain. Marmont aussi, il fera son QG. Et alors là aussi, Polignac, l'ultra premier ministre, il reste inerte. Il ne sait pas que faire. Il est pris au dépourvu. Il rentre, il sort, il s'agite. Il n'a même pas la pertinence, si vous voulez, de mettre en place un système de messagerie, d'échange de messages avec le roi, avec Saint-Cloud, pour donner l'ordre, pour reprendre, informer le souverain, recevoir les ordres, donner des bons conseils. Et donc là, on va s'acheminer vers un désastre qui va être très rapide pour la monarchie. Donc, je n'ai pas le temps de terminer au cours de la présente séance. Eh bien, nous retrouverons ces événements, cette révolution qui va s'achever, cette révolution de 3 jours, qui se terminera par le nouvel exil des Bourbons, la famille royale, et la fin totale des Bourbons, avec le Charles X. Et puis cette anecdote, cet épisode dramatique des 3 rois, on va voir, se abdiquer, les 2 premiers, Charles X abdiquera, mais on y viendra donc lors de notre prochaine séance, au profit de son fils aîné, Angoulême, qui sera pendant une poignée de secondes Louis XIX, voilà, et puis qui va lui-même abdiquer au profit de son neveu, le futur Henri V, qui ne sera jamais roi. Mais nous allons découvrir ces événements, qui est aussi une tragédie, assez peu connue. Nous nous retrouverons donc lors de la prochaine séance. Et puis je vous annonce aussi l'émission ultérieure, que j'avais prévu de faire lors de la semaine prochaine, mais là nous ferons la deuxième partie, eh bien ce sera, on parlera du Front Populaire. Mais bon, pour mardi prochain, nous terminerons sur cette révolution de 1830, qui sera escamotée, on va dire, pas de république, mais ça sera une nouvelle monarchie, la monarchie de Juillet. Nous aborderons aussi les débuts de la monarchie de Juillet, des Orléans, de Louis-Philippe. À bientôt, chers auditeurs.